Dan Gagnon pour le podcast tout seul, c'est le numéro 22 et je me rends compte que je parle de moins en moins d'actualité dans le podcast et c'est pas du tout fait consciemment. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages à ça, comme par exemple, je ne crois pas qu'il y ait énormément de personnes qui l'écoutent au jour le jour. Si c'est le cas, super et merci beaucoup. Mais j'imagine que c'est par batch, comme on dit. Ça binge, j'écoute un peu pendant un moment, puis ça prend un peu de retard. Donc, ça permet de rester pertinent. Ou si ça c'est pas pertinent, que ça n'a rien à voir avec l'actualité. Et aussi parce que l'actualité étant occupée à quelque chose comme 89% par le coronavirus, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Au début, j'en parlais beaucoup. Maintenant, j'ai pas grand-chose à dire parce que tout ce qu'on doit savoir en tant que citoyen, les gestes qu'on doit poser, les choses qu'on doit faire sont les mêmes. Et le reste, c'est... surtout de ce côté-ci de l'Atlantique, en Amérique du Nord, c'est beaucoup une bataille politique. Je veux dire, c'est quand même une évidence que la distanciation sociale et le confinement ont permis d'endiguer un peu ça. T'as beaucoup de gens qui sont contre, qui disent que ah, c'est juste une grippe, qu'on en a fait des tonnes, qu'on nous cache des choses, que le gouvernement nous manipule. Comme si le gouvernement avait un quelconque intérêt à complètement démolir l'économie. Ça ne fait aucun sens. Donc, ceux qui prétendent ça ne sont pas super intéressants. Il n'y a pas vraiment de raison d'essayer de les convaincre du contraire. Parce que si tu crois ça à la base, il y a peu de chances que des arguments rationnels fonctionne sur toi. Donc voilà. Donc je ne sais pas exactement ce que je pourrais faire d'intéressant. Et c'est assez fâchant, en fait, de regarder sinon les luttes aux États-Unis, par exemple. C'est devenu plus ou moins un combat entre les démocrates et les républicains, avec une partie des républicains qui dit qu'il faut réouvrir l'économie. Il y a des manifestations. Et c'est hyper... upsetting, ça devient très anxiogène. Je me suis surpris aujourd'hui à me réjouir de la mort d'une personne. Et c'est ignoble en fait parce que c'était simplement un article via CNN, je crois, où ça disait un homme d'un état qui va être ouvert plus rapidement que les autres considérait que c'était ridicule et du nonsense. D'annuler l'économie comme ça et des mesures de confinement, et il est mort du coronavirus. Et mon premier réflexe en cliquant sur l'article, qui est exactement ce que l'article cherchait à faire au final, c'est genre « karma, bitch! » Mais c'est pas génial. C'est un peu triste de réagir comme ça, parce que si cette pauvre personne croyait que c'était plus important de rouvrir l'économie que de protéger la santé publique. Ben, peut-être que ça ne la dérange absolument pas d'être morte pour ça. Et aussi, ça vient probablement d'un point d'ignorance. Et je ne vois pas comment c'est super de se réjouir que l'ignorance de quelqu'un l'ait amené à son propre décès. C'est pas genre de l'ironie savoureuse comme on essaie de te faire croire. Et je suis le premier coupable parce que ça a totalement fonctionné sur moi. C'est pas comme l'inventeur du Segway qui est mort à Segway. C'est pas comme celui qui voulait prouver que la Terre était plate et qui est mort en le faisant. C'est pas comme ce motard, encore une fois, aux États-Unis qui manifestait contre le port du casque à moto et qui est mort à moto. En fait, est-ce que c'est vraiment différent? J'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, au final, j'essaie de me méfier de ça. J'essaie de me méfier de cette espèce de sentiment de justice complètement préfabriqué. Genre, moi, je me suis senti mieux comme si la justice avait suivi son cours. La seule chose qui est positive dans cette nouvelle-là, c'est si tu as quelques personnes qui ne voyaient pas l'importance du confinement ou de la distanciation sociale, qui, via ça, se disent comme « oh fuck », et que ça permet de sauver d'autres vies. Voilà, c'est la seule chose. Pour le reste, voilà, la quantité de spécialistes improvisés, la quantité de discours inutiles, la surlouange des gouvernements qui font « Ah, ils font quand même un bon travail », mais tu t'attendais à quoi? Qui disent « Chacun sa merde » et qui se cassent aux Galapagos en attendant que ça se calme. Et moi, je trouve, par exemple, qu'au Québec, ils font un super boulot. Donc, c'est même pas pour diminuer leur travail. Mais après ça, soit l'impossibilité de critiquer certaines décisions, soit à l'inverse, ça m'énerve aussi, j'avoue, le côté genre, le gouvernement, il devrait faire plus pour nous autres. C'est un gouvernement qui t'a. C'est pas l'Olympe. Il n'y a pas de miracle qui va arriver. Et cette manière d'imaginer ça, soit que on nous ment, ou encore, on n'en fait pas assez pour nous, mais il y a un côté très enfantin, juvénile qui ressort, qui me fatigue. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire, à part, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Moi, je fais ce qu'il faut pour ne pas mourir et ne pas mettre en danger les gens que j'aime et que j'aime pas d'ailleurs autour de moi, mais voilà, ça fait déjà 6 minutes que j'en parle et j'ai vraiment rien de plus à dire. Aujourd'hui, je voulais traiter d'un sujet. Alors, je suis toujours sur le sujet de l'adoption en passant. Je répète, s'il y en a qui ont adopté, qui connaissent bien l'adoption ou qui ont été adoptés, contactez-moi, j'ai envie de lire votre histoire pour pouvoir en parler un peu plus. Et merci beaucoup, j'ai oublié le nom et c'est pas très gentil, donc je vais aller le rechercher tout de suite. Il y a une auditrice qui m'a renvoyé vers un podcast que je ne connaissais pas, qui s'appelle Kif Taras, qui est tenu par deux femmes qui parlent, comme son nom l'indique, de tout ce qui touche au racisme en général ou difficultés, ou même aux situations, ou à la réalité des gens de toutes les origines. Et ils ont fait un numéro spécial, donc voilà, je suis en train de retrouver dans la boîte de réception le nom de la personne, et je vais retrouver le numéro de l'épisode exact, donc du podcast Kif Taras. C'est Sophie qui m'a envoyé ça. Donc voilà, c'est le numéro 41. Et ils ont une invitée qui est une fille qui vient de Corée du Sud, qui est adoptée par des Français et qui raconte tout son parcours entre au début avoir ressenti le besoin d'être comme sa famille, d'être dans le sens d'être considérée comme blanche dans ce cas-ci, et d'avoir vu ça comme un peu des sauveurs, jusqu'à ce qu'elle fasse un voyage en Corée du Sud, qu'elle reprenne son prénom qu'elle avait en Corée du Sud et la façon dont elle voit les choses maintenant. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça ne se voulait pas une méta-analyse de métadonnées de toutes sortes d'études, mais juste ce que j'essaie de faire ici au final. Genre une personne qui raconte sa réalité à elle et via ça, ça t'ouvre l'esprit puis ça te rend curieux pour d'autres pistes. Et la même auditrice, Sophie me parlait d'un documentaire qui s'appelle Twinsters sur le sujet des enfants adoptés à partir de la Corée du Sud. Et dans le podcast, une des choses qui était le plus frappante à entendre, c'était que en France, des 5 pays où on adopte le plus, genre d'où viennent les gens qu'on adopte le plus donc en France, il y en a 3 qui n'ont pas signé la convention qui a l'air d'être la convention qui protège les droits de tout le monde. Il parlait aussi d'un métier qui s'appelle les rabatteurs. C'est en gros dans certains pays des gens qui sont payés pour essayer d'aller convaincre des familles de donner leurs enfants à l'adoption. Donc, une réalité qui était assez non surprenante, mais quand même assez choquante et très intéressante à découvrir. Et j'ai envie de fouiller, d'approfondir ce sujet-là, donc des adoptions. Si vous avez des pistes, des documentaires, des choses que vous avez lues, entendues ou même vécues, ça m'intéresse grandement. N'hésitez pas à me contacter. Un autre auditeur qui écoute souvent, c'est PE. PE, c'est un humoriste à Bruxelles que j'ai rencontré donc quand j'ai commencé à faire de l'humour. Il est là depuis longtemps sur la scène. C'est un gars qui travaille super fort et qui est très curieux. Et il réagit souvent au podcast aussi. Et il me suggère de temps en temps des axes. Et là, il m'a écrit aujourd'hui et il m'a proposé un axe qui m'a vraiment parlé très fort. Et si je résume, c'est la survalorisation de la libido principalement chez les hommes. Son axe à lui, c'est on te bombarde d'images, d'idées et de concepts comme quoi la femme est un objet de convoitise et c'est normal de toujours être en situation de désir et c'est assez traumatisant pour des hommes qui se rendent compte qu'ils n'ont pas autant de désir. Et je l'ai un peu mal exprimé, là, mais en gros, c'était son idée. Et ça m'a fait rebondir. Donc, en restant dans la, je dirais, dans la même famille d'idées, il y a juste un angle un tout petit peu différent que je voulais adopter. Ça, c'est moi qui bois une petite gorgée. Il est 22h15 et je dois me lever très tôt parce que demain, j'écris pour la France et avec le décalage horaire depuis le Canada, on est à moins 6h. Donc, je dois me lever avant le soleil pour écrire. Donc, je fais le petit podcast en me détendant avant d'aller faire un dodo. Et donc, voilà, c'est l'image qu'on se fait de la libido masculine. Moi, j'ai 37 ans. J'ai vécu un peu de tout dans ma vie. Il y a eu des périodes où littéralement 86% des personnages de dessins animés m'excitaient quand même. D'autres moments où l'idée même de voir quelqu'un de sexy me semi-dégoûtait parce que j'avais pas envie de dealer avec le fait de devoir dire à cette personne que c'était « c'est pas toi, c'est juste moi, ça ne m'intéresse pas ». Et donc j'avais fouillé pas mal sur le concept de libido. Et je me suis rendu compte à quel point c'est rempli de d'idées reçues qui n'ont rien à voir avec le réel. Déjà parce que le sexe est partout, mais on en parle sérieusement rarement. Et c'est très, 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 très facile de sentir que tu perds la face. Je veux dire, il y a un orgueil, il y a un égo avec le sexe où en gros tu dois être, pour un homme, une certaine partie de la population valorisée si t'es toujours excité, toujours prêt à être en mode performance, toujours au taquet en gros. Et la vérité, ce n'est pas ça. Beaucoup d'hommes s'imaginent avoir toujours envie et ce n'est déjà pas vrai. Et dans énormément de relations que je connais, la fille plus envie que le gars. Le gars, il s'imagine qu'il veut toujours parce qu'il s'imagine que le sexe est une ressource rare parce qu'on lui a vendu que lui avait toujours envie et que les femmes n'aimaient pas et tu devais les convaincre. Petite nouvelle, les femmes ont envie de sexe. Si tu n'en as jamais rencontré qui avait envie de sexe, c'est pas qu'elles n'avaient pas envie de sexe, c'est qu'elles n'avaient pas envie de toi. Voilà. Prendre un exemple parmi tant d'autres, Georges Clooney n'a jamais eu l'impression que les femmes n'avaient pas envie de sexe. Ou en tout cas pas dans les 30 dernières années. Et cette manière-là d'imaginer que tu as toujours envie te donne l'impression que c'est une ressource rare et te donne l'impression que tu dois être en quête permanente. Mais dans un monde qui n'est pas le nôtre, si tout était toujours possible, les gars, ils ne feraient pas ça 15 fois par jour non plus. Le vrai rythme serait quoi? Peu importe, très différent pour chacun, très différent par les périodes, mais c'est... Ça te met dans un état d'esprit hyper étrange. Déjà, si tu pouvais réaliser que c'est pas si important, le sexe, et c'est pas si intéressant que ça, c'est super! Comme manger, c'est super. Comme dormir, c'est super. Comme faire du sport, c'est un des besoins primaires, mais c'est pas le début et la fin de la vie. Et si on pouvait arrêter de traiter ça comme la ressource rare dont tu as besoin aussi souvent que tu as besoin de respirer, ça changerait tellement de choses. Et pendant tout un temps dans ma vie, j'avais réalisé qu'une des idées les plus choquantes et les moins populaires que tu puisses essayer de défendre, c'est si tu n'as pas envie d'avoir d'enfant, l'idéal serait de couper absolument tout désir sexuel et ça te permettrait d'être heureux. ma théorie, c'est énormément des raisons pour lesquelles tu n'es pas heureux ont à voir avec le sexe. Si tu n'as pas envie de sexe, tu n'as pas besoin de conquête. Donc, tu ne te sens pas diminué dans le rejet, tu ne te sens pas humilié quand on te dit non. Si tu ne sens pas le besoin de conquérir, et je ne parle pas pour tout le monde, évidemment, mais pour une partie, quel est l'intérêt d'avoir plus que 3 vêtements dans ta garde-robe? Si tu n'as pas besoin d'avoir plus que 3 vêtements dans ta garde-robe parce que tu n'as pas besoin de séduire, tu as plus d'argent. Si tu as plus d'argent, tu stresses moins avec l'argent. Tu ne gardes peut-être pas un job que tu n'aimes pas. Si 100% des pubs que tu vois n'ont pas d'effet sur toi, allez, j'exagère, 80-85%, parce qu'elles servent juste à te vendre quelque chose pour augmenter ton statut, pour être dans une meilleure position, pour choisir un meilleur partenaire. T'élimines tout ça, tellement plus facile. Toutes les soirées que tu feras pas, tous les contacts qui ne servent à rien d'autre qu'essayer de te positionner pour éventuellement pouvoir trouver quelqu'un avec qui coucher, t'élimines tout ça. L'industrie des boîtes de nuit, des cafés, des bars, ça ne meurt pas, mais c'est quand même vachement diminué. Je me souviendrai toute ma vie de la pub américaine pour essayer de te vendre des diamants, donc des bagues en diamants. Évidemment, c'est donc pour les bagues de fiançailles, la fameuse engagement ring. Et leur slogan, qui est un slogan célèbre, c'est, si je traduis, traduction libre, c'est quoi un an de salaire pour quelque chose qui va durer toute la vie? Sous-entendu, la bague et la relation. Et l'humoriste Doug Stanhope, que j'apprécie particulièrement, c'était insurgé contre ce truc-là en disant « Mais c'est n'importe quoi, si vraiment t'es très amoureux l'un de l'autre et que t'es prêt à mettre un an de salaire dans une bague, tu devrais toujours, à ce moment-là, donner l'option à l'autre personne, lui dire « Ok, t'as deux choix. Soit je te donne une bague qui m'a coûté un an de salaire, soit je prends une année sabbatique. » Et la façon de montrer qu'on est amoureux de l'un de l'autre, qu'on a envie de passer notre vie l'un avec l'autre, c'est qu'au lieu de t'acheter une bague, on a 52 semaines ensemble. Et je trouvais que c'était tellement un bon filtre et un bon test pour les relations. Si tu te proposes ça l'un à l'autre, peu importe, fille qui propose ça au mec, mec qui propose ça aux filles, entre filles, entre mecs, peu importe. Qui choisit la bague au-delà de l'année passée avec toi? C'est quand même un solide signe. Et je suis marié et j'ai du plaisir à l'acheter une bague. C'est pas. Je vous dis pas quoi faire. Je dis juste qu'il y a des logiques qui sont mises dans ta tête et qui n'en sont pas vraiment. Et c'est pas genre oh, la faute au système et au marketing. Non, tu n'es pas obligé de participer à tout ça. Ceux qui se plaignent de ah, mais Facebook utilise mes données, mais n'utilise pas Facebook. Qui t'a forcé? Oui, mais si je suis pas là-dessus, j'ai dit, c'est ça. Tu as envie. Si tu as envie de jouer au foot, faut que tu tapes dans une balle ou faut que tu l'arrêtes. Voilà, ça vient avec. Tu as décidé de déménager à côté d'un aéroport parce que ça te coûtait moins cher. Tu peux pas te plaindre du bruit des avions à un moment donné. Tout ça, parfois, c'est un package puis ça vient ensemble. Les pubs de Viagra. Je crois qu'en Europe, vous n'avez pas le droit de faire des pubs pour des médicaments. En Amérique du Nord, on peut. Donc, t'imagines bien que les pubs de Viagra sont tellement construites pour ménager l'ego. Il n'y a aucune pub de Viagra qui est « Hey, tu bandes pas? » Pas grave. Si tu as de l'argent, ça peut revenir. La dernière pub de Viagra au Québec, c'est toujours quelqu'un d'excessivement genre viril. Là, c'est un gars qui doit faire 2 millions de kilos de muscles, qui fait Viagra. Personne ne croit que c'est un ancien joueur russe. Viagra, ça fait 10 ans que tu connais le nom. Demande à ton médecin. Les pubs sur... moi, je suis abonné à une radio satellite, donc c'est Sirius XM, et est énormément de pubs, et je suis avec une pub sur deux, surtout pour les... dans les émissions d'information, c'est pour des médicaments. Et une des choses qui va toujours avec le fait de vendre du Viagra, c'est quand c'est à distance, c'est genre, ça va arriver chez toi dans un packaging discret. Toujours cette honte d'avoir des problèmes érectiles, mais c'est des problèmes érectiles, c'est pas 82 ans, c'est pas anormal. À 30 ans, c'est pas anormal. Mais t'es arrivé dans ma vingtaine. Moi. Mais je me dis, imagine, t'es libéré de tout ça le temps que tu gagnes. Peut-être besoin de travailler moins. Moins de temps déjà à tout ce qui est conquête, recherche, drague dans un cadre sexuel, évidemment, tu as d'autres raisons de draguer, d'être en relation, mais voilà, dans ce cadre-là. Puis tout ce que tu peux faire avec ce temps. Parce qu'au final, la satisfaction sexuelle, un des plaisirs dans la satisfaction sexuelle, c'est d'arrêter d'avoir envie. Et moi, quand je disais, j'aimerais mieux ne plus jamais avoir de libido de ma vie, non, c'est quand même triste. Fait non. C'est aussi triste ne pas avoir de libido que ne pas avoir envie de prendre de l'héroïne. Si tu en prends, tu vas trouver ça triste de ne plus avoir envie d'en prendre parce que tu sais le plaisir que ça représente pour toi, mais si tu es libéré de l'envie, il n'y a aucun problème. En fait, je ne vois pas beaucoup d'avantages à ne pas avoir de libido. Il y a quelques inconvénients comme le fait de moins bien comprendre la marge du monde. Et encore une fois, je ne juge pas. Il y a beaucoup qui se plaignent. Ah, il y a beaucoup de publicités qui utilisent le sexe. Ah oui. Des gens qui payent pour attirer ton attention le font en touchant tes désirs. Vraiment, genre, mon désir primal ou même un certain besoin. C'est pas, moi, je trouve pas ça choquant. C'est fait avec goût, avec classe ou pas. Il y a des limites, il y a des trucs qui sont illégaux, il y a des stéréotypes qui sont perpétués, mais ah oui, ils vont le faire. Je dis, le point de la pub, le trois quarts du temps, c'est pas de te vendre un produit. T'entends rarement parler des caractéristiques d'un produit dans une pub. Il associe juste une émotion à un produit, comme ça t'as envie du produit pour avoir l'émotion. Et c'est pas, je trouve même pas ça cynique, c'est juste comprendre comment la machine fonctionne. Il n'y a rien qui illustre ça mieux que le slogan de Coca-Cola. Je sais pas s'ils l'ont changé depuis, mais c'était Open happiness. Littéralement, t'ouvres un coca, t'ouvres du bonheur. Je connais pas la recette du coca, mais il n'y a pas de bonheur dedans. Bon, il y a du sucre qui est un supplément à court terme, pas si mal, mais. Et voilà. Et en réfléchissant à ce truc-là, en me disant, ça serait génial, en fait, d'avoir aucune libido. Je veux dire, tout ce qui est consacré au sexe, à la recherche du sexe ou à se positionner pour avoir plus ou avec des gens plus intéressants, dans une semaine, tu remplaces ça par l'apprentissage d'une langue. On en parle tous 12 aujourd'hui. Et je dis pas que parler 12 langues est mieux que le carnet de tes rencontres sexuelles. Je dis juste que ça vaut la peine de réfléchir à ça comme étant deux options et deux chemins viable. Si tu avais l'option de ne pas avoir de libido, est-ce que tu la prendrais? Je pense que oui. Je pense que rien ne me manquerait si je n'avais pas de libido. Je dormirais plus. Et la contrepartie, la deuxième partie de cette réflexion-là, c'est évidemment l'image qu'on se fait de la libido féminine. Et sur scène, je racontais ça à un moment donné parce que c'était à force de discuter avec des amis, j'avais réalisé que c'était. Cette phrase-là faisait sourire. C'est pas une énorme blague, mais je trouvais que le fait que la phrase fasse sourire était assez évocateur. Je disais pour réaliser à quel point on n'est pas égal devant le sexe, c'est pas nécessairement à quel point t'es beau, pas beau, charismatique, pas charismatique. C'est vient un temps où ça devient tout simplement un business. C'est de l'offre et de la demande. Si t'as de la demande une fois par année, tu vas être tendu. Si tu as 500 demandes par jour, ça va être assez différent. Et tu vois à quel point on ne se comprend pas là-dedans. Là. Juste en entendant la phrase très souvent, en disant « Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ce gars-là? Il n'est même pas beau. » La beauté a très peu à voir avec l'attirance. Toi, la personne doit te sembler séduisante, c'est une évidence, mais la beauté... Et quand tu es super canon, tu peux avoir qui tu veux. J'imagine que c'est pas ton critère à toi. Toi, c'est important la beauté parce que c'est une manière de te prouver que tu as de la valeur socialement, d'être capable avec quelqu'un, d'être avec quelqu'un que les autres considèrent beau peut-être, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et donc, quand je disais l'offre et la demande, je ne suis jamais arrivé à un gars dans l'histoire de l'univers de se dire « Ok, là, mes amis m'ont appelé. Ils sont dans un bar, il faut que j'aille les rejoindre. Ah, merde, je suis un peu en retard. Prends une douche à la va-vite. Enfile le premier jean qui tombe sous la main. Un t-shirt. Prends les clés, sors de l'appartement. » Mais juste avant de sortir de l'appartement, le mec croise le miroir sur pied. Et il voit le cul que ça y fait dans son jean. Puis il fait genre « Ah non, je peux pas sortir habillé comme ça. Je vais me faire emmerder toute la soirée. » Non, gars, je veux juste aller boire un verre. J'ai pas envie de refuser les propositions et de passer ma soirée à me protéger de l'envahissement. Donc, je vais aller mettre un jean un peu moins beau. Et je ne connais aucune fille, aucune, pour qui ça n'a pas au moins traversé l'esprit une fois en disant « Est-ce qu'habillé comme ça, je vais être capable de passer une soirée avec mes amis, mes copines, peu importe, ou est-ce que ça va être emmerdant, ça? » Avec certainement la seconde réflexion qui est « Mais je ne vois pas pourquoi je m'habillerais pour essayer de correspondre à une image que des gens dont je me fous se font de moi à ce moment-là. » Mais putain, j'ai juste envie de passer une bonne soirée, donc tant pis, je me change. Et voilà, je trouve, encore une fois, qu'il y a une espèce d'ironie, même de choses qui ne fonctionnent pas entre la survalorisation du mec qui est toujours prêt, qui a toujours envie, avec le fait que ce mec doit être super chiant. Et chiant, c'est vraiment un euphémisme. Moi, j'ai absolument pas honte de dire que je peux passer des semaines et des mois sans avoir envie. Je trouve ça très bien. Je cuisine mieux, je regarde plus de films, je fais autre chose. Puis tout à coup, ça revient, mais c'est au point où je crois que n'importe quel mec qui a pas eu envie pendant un mois ou deux s'inquiète. Est-ce que je suis normal? Si. C'est super rare des gens qui ont toujours envie. Il est à peu près temps qu'on le dise, par contre. Que tu arrêtes de te sentir coupable, que tu arrêtes de te forcer à faire croire que tu as envie. Non, c'est cool. Prends ça, relax. Et ça, mélangé à la fin du livre de Seth Godin dont je vous parle, qui s'appelle « This is Marketing », que j'écoute depuis un moment, qui disait « Quand tu crées quelque chose et que tu essaies de vendre quelque chose aux autres, essaie toujours de trouver en quoi est-ce que tu peux rendre service, en quoi est-ce que ton talent peut être utile. » Et après 7 heures d'écoute de ce livre, je crois que j'ai trouvé à quoi peut vraiment servir ce podcast. Tout le monde a déjà eu cette impression de se sentir seul. Ça n'a rien à voir avec la quantité de personnes qui sont autour de toi. Tu peux être dans une soirée entourée de 50 personnes, tu te sens seul. À Noël, tout à coup dans ta famille, paf, tu te sens super seul. T'es en train de regarder un film super bien avec ton copine, ta copine, ton mec, peu importe. Pouf, tu te sens seul. Dans le milieu de ta classe, à un moment donné, à l'école, on dirait que tu t'élèves au-dessus de ta propre tête, tu te vois, tu fais « Mais il n'y a personne comme moi ici, puis tu te sens seul. » Clairement, le podcast que je suis en train de faire ne va pas plaire à tout le monde. Mais je pense qu'il peut être utile pour que on se sente moins seul. Si toi, ça t'intéresse ce genre de conversation-là, puis que tu sais qu'il y a des centaines de personnes qui écoutent le podcast, c'est que tu n'es pas tout seul. Quand tu entends les témoignages d'autres personnes sur certains sujets, c'est que tu n'es pas tout seul. Le fait qu'on puisse traiter, parce qu'on s'en fout, on fait ce qu'on veut, de n'importe quel sujet, et que ça te concerne ou pas, ça t'intéresse. Putain, mais je suis pas tout seul. Et c'était très beau, je trouve, ce que mon épouse a dit dans le podcast quand elle parlait de toutes les difficultés, la culpabilité parfois, par rapport au fait d'être mère et de ne pas être parfaite. Là. Quand tu es en dépression, la difficulté que c'est juste de prendre une douche, j'ai reçu des dizaines de messages qui me disaient juste « Oh putain, ça m'a parlé. » Donc voilà, je crois que c'est à ça qui sert le podcast. On essaie de faire les choses les plus intéressantes possibles, mais de se sentir le moins seul possible. Donc si vous connaissez des gens qui pensent comme vous puis qui se sentent seuls souvent, partagez ça. Ensemble, on va être moins seuls. C'est tout pour aujourd'hui. Bye bye.